Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Un lieu comme il y en a tant en France, dans une campagne un peu perdue, un peu abandonnée. Le lieu s'appelle l'écart des trois filles seules. Et voilà la Bassée, un hameau et ses trois maisons dont une est inhabitée. On y prépare une fête qui va se transformer en cauchemar. Beaucoup de contes font peur aux petits-enfants car ils sont peuplés d'ogres, de loups, de sorcières. Et si ce roman intitulé « Histoire de la nuit » s'adresse aux adultes, il est également peuplé d'êtres malfaisants qui veulent terroriser et affirmer leur pouvoir. Roman passionnant, construit de multiples vies qui s'entremêlent, un roman noir dont l'intrigue fait monter la tension jusqu'au final, que bien sûr je ne vous dévoilerai pas. L'auteur en est Laurent Mauvignier, que je suis heureuse d'accueillir dans l'émission Parole d'auteur. Laurent Mauvignier, bonjour. Vous voyez, j'ai des tics, je faisais signe aux techniciens. Un résumé serait trop court, bien court, et pourtant 630 pages, et on ne s'ennuie pas. 630 pages, finalement, pour une action qui n'est pas débordante.
Non, effectivement, ça pourrait se résumer en peu de pages. D'ailleurs, au départ, c'était peu de pages, parce que c'est un livre que j'ai commencé en fait dont j'avais fait une version scénario pour un moyen métrage. Ça faisait 30-40 pages, quoi, pas plus. Et donc effectivement, l'intrigue se résume à peu de choses. Et c'est vrai que toute l'écriture du livre, ça a été justement d'écrire presque contre ce scénario et d'essayer de creuser à l'intérieur du livre pour savoir ce que c'était en fait que ce livre.
Vous commencez à répondre à une question qui m'intéressait, que je n'ai pas notée. Est-ce que c'est venu comme ça ou vous avez fait un plan?
Non, pour le coup, c'est la première fois que je travaille comme ça parce que justement... J'avais réalisé un court-métrage, j'ai voulu en faire un deuxième. Mais le premier court-métrage était... c'était pareil, des gens dans une maison, mais ils parlaient beaucoup, c'était plus proche du théâtre. Et là, j'avais envie de faire un autre film, mais qui serait plus sur la question du mouvement, du silence, de la façon dont on suit les gens, etc. Donc, la question du genre, un peu un thriller, etc., m'intéressait. Donc, je suis parti là-dessus. Donc j'ai commencé à me demander ce que ça ferait comme livre, etc. Mais ce qui fait que je me suis retrouvé à avoir travaillé comme un auteur de polar sans le savoir.
C'est la première fois que vous abordez le polar, le roman noir.
Oui, comme ça. Et c'est vrai que j'ai discuté après avec un ou deux auteurs comme ça de polar qui me disaient, mais bah, nous on fait ça, on fait d'abord un scénario et puis après, d'une certaine manière, on remplit les cases. Moi justement, je voulais à la fois faire ça dans la construction, mais je voulais pas, justement pas remplir les cases. Je voulais pas que ce soit du coloriage, je voulais que ce soit de la peinture d'une certaine manière, vous voyez.
D'accord.
Je voulais dire, je vais pas simplement écrire les scènes les unes après les autres de manière plus ou moins romanesque, mais j'ai quand même construit ça. J'ai passé quand même un an sur le scénario, et après je me suis dit, sur chaque séquence je fais 10 pages, allez mettons 10 pages par séquence. Donc des séquences où il se passe beaucoup de choses, ça ira vite, ça sera facile. Mais d'autres où il se passe pas grand chose, quelqu'un arrive, garde sa voiture et rentre dans une maison, en 10 pages, il va falloir quand même trouver de quoi dire. Et c'est aussi comme ça, c'était une expérience
originale.
En tout cas, qui était très forte parce que j'étais obligé de me poser la question de savoir qui étaient les personnages, comment ils étaient. Ça m'a obligé à aller à leur rencontre, vraiment. Et puis, ça m'a obligé aussi à aiguiser. Et pour ça, le thriller, c'est très bien, parce que tout ce qui touche à la peur, ça oblige à aiguiser ses perceptions, à tout observer, à étirer vraiment les choses. Oui. Donc, c'était passionnant à faire, ça.
Bien sûr. Au départ... Vous avez dit tout à l'heure que c'était au départ pour un court-métrage. Le thème qui vous tenait à cœur, c'est un conte lu, ou cette société qui est chargée de drames quand même. Est-ce qu'au départ, il y a quelque chose de particulier qui a fait que vous avez choisi ce thème-là?
Non, mais en fait, moi, à chaque fois, c'est ce qui fait que je peux continuer à écrire des livres, je crois, du moins, pour moi, en tout cas, dans ce que je me raconte, c'est que je pars vaguement avec une image, ou j'allais dire une idée, mais c'est quand même déjà un peu presque grandiloquent de dire idée, parce que c'est même pas des idées, c'est oui, c'est des images, des sensations, des intuitions comme ça. Donc là, vraiment, c'était un petit scénario de polar qu'on a vu 300 fois à la télé ou au cinéma. Et puis au fur et à mesure, quand même, à un moment, je me retrouve avec 300 pages et j'en suis qu'au début. Hein. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? Et au fur et à mesure, tiens, ça ne parle pas que d'un polar, que d'un, ça raconte quand même quelque chose. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils me racontent à moi? Et à un moment, j'étais avec Patrice Bergogne, le personnage principal, on peut dire, en tout cas au début du livre, avec sa femme, avec sa voisine. Donc on voit toute la condition sociale, etc. Donc je me disais, bon, c'est une façon de parler peut-être de la solitude, de la ruralité, de tout ça. Et puis de cet homme qui est marié avec une femme dont on sent qu'ils ne sont pas très unis, en fait, peut-être qu'elle ne l'aime pas, etc. Lui, toutes ces questions sur sa frustration sexuelle, sa culpabilité, etc. Bon.
Ces souvenirs d'enfance aussi.
Voilà la présence de l'enfance, du devoir qu'on se doit comme ça d'assumer alors que peut-être il faudrait pas. Ses frères sont partis, lui est resté, des choses comme ça. Donc il y avait tout ce poids-là. Et puis je me dis, tiens, peut-être que ça parle de ça. Puis au fur et à mesure, ça évolue. Je me dis, peut-être que ça parle du rapport, dans le rapport homme-femme, du rapport de domination. Et puis plus largement, du rapport de domination aussi sociale.
Et puis ce qui fait un couple.
Ce qui fait un couple, le rapport à l'enfant, etc. Bon. Tout ça grossissait. Je me retrouve avec 300 pages, comme ça. Puis d'un seul coup, 200 pages plus loin, je me dis, mais en fait, non, c'est un livre sur la violence faite aux femmes. Puis ça continue comme ça, jusqu'à la toute fin. Là, je ne dirais pas quoi, quel est le dernier
On
sujet, d'une
parle
certaine
pas,
manière.
oui.
Mais j'ai eu l'impression. C'est drôle parce qu'en début du livre, j'ai mis une phrase de David Foster Wallace. Cette phrase, elle dit, il y a des secrets. Je ne sais pas
Il
si.
y a pourtant des secrets à l'intérieur des secrets, toujours.
Alors, c'est étonnant parce que cette phrase, je l'ai choisie vraiment dès que j'ai commencé le livre. Et ce que je ne savais pas,
C'est que vous alliez dévoiler les secrets.
voilà, c'est qu'au fur et à mesure, un secret allait en révéler, allait en cacher un autre, avec ce jeu de cacher et d'ouvrir en même temps, quoi. Et donc ça a été vraiment même je pourrais dire que si je devais résumer le principe même d'écriture de ce livre, ça tient à cette phrase, quoi.
Tout à l'heure, vous avez parlé de thèmes que l'on retrouve dans les films, parce que à plusieurs reprises, mais il n'y a pas que ça, oh combien, non, mais à plusieurs reprises, j'ai pensé à des films. Alors, j'ai pensé, alors je l'ai noté, La Nuit du Chasseur, évidemment, j'ai pensé à Orange Mécanique, à certains moments, et j'ai pensé à Blue Velvet.
Ah oui, oui, mais ça pourrait, c'est vrai.
Ah oui, vraiment, il y a des scènes, des passages qui je me disaient, ah oui, tiens, ça, je verrais bien, bon, et puis il y a la musique aussi qui va avec ces films, évidemment. Bon, mais vous n'avez pas voulu, vous avez peut-être ça en tête, mais finalement, il me semble que quand on écrit, il y a des choses qui vivent dans votre cerveau, mais qui n'arrivent pas, qui sont instinctives même.
Oui, alors je peux dire qu'il y a deux films vraiment qui ont compté dans la genèse de l'écriture et qui sont. Il y a par exemple, il y a la scène où on entend cet extra Léo Ferré où les deux font danser les deux filles, etc. Ça, cette scène-là, c'est une citation d'un film que j'ai beaucoup aimé, moi, qui s'appelle La Chevauchée des Bannis d'André de Tocque, qui est une sorte de western, je sais pas, ça date des années 50, je crois, je sais pas. Un western, mais extraordinaire. Je trouve ce western complètement fou. Il n'est pas très connu parce qu'il est
Non, je
montré un peu
connaissais
comme un
pas.
film de série B, sauf qu'il n'est pas du tout. J'allais dire, pour donner peut-être, j'espère, envie, ce serait une sorte de western à la Dreyer, vous voyez. C'est complètement austère et en même temps, il y a un rapport à la violence qui est tout à fait. En fait, c'est des gens. Des hommes qui se sont évadés de prison, qui débarquent dans un village de montagne recouvert de neige, donc ils sont coincés évidemment, et en fait ils kidnappent tout le village. Mais le film extraordinaire.
Là, vous n'avez fait kidnapper que 4 personnes, finalement.
Ouais, voilà, exactement. Ça va, c'est très modeste. Il y a une scène dans un saloon. Et là, par contre, qui est une scène de cinéma, mais extraordinaire, moi, qui m'a fasciné. Et voilà, cette scène-là, ça, c'est sciemment. C'est fait très volontairement. Il y a un autre film qui est l'avant-dernier film d'Elia Kazan, qui s'appelle Les Visiteurs. Qui n'a évidemment rien à voir avec celui qu'on connaît, qui est un film, c'est son avant-dernier film, qui est un film filmé, hein, je crois, en 16 mm, qui est un film vraiment à petit budget, avec des acteurs à l'époque pas connus du tout, et qui est tiré d'un fait divers de deux soldats, de deux GI qui, en revenant du Vietnam, qui sont allés se venger d'un troisième. Parce que ce troisième les avait dénoncés, avait dénoncé un viol ou je ne sais quoi. Je ne sais plus exactement l'histoire. Et ce film-là, moi, quand je l'avais vu, m'a très, très impressionné, mais parce qu'il était très réaliste et très simple. Et que les kidnappeurs, ce n'étaient pas que des salauds ou que des. Il y avait une vraie humanité, une vraie fragilité. Voilà, moi,
oui,
c'est un film qui
a. On ne parlera pas des kidnappeurs dans votre roman, mais effectivement. Il y a des choses qu'on comprend. Ils ont des sentiments. À la limite, il y en a même un qui est amoureux.
Mmh, ouais.
Voilà.
Mais bon. Ça, par exemple, vous savez, j'ai fait quand même pas mal d'entretiens maintenant sur ce livre. Et très souvent, par exemple, quand on parle de cinéma, les gens me parlent de Funny Game, Le Haneke, à chaque fois. Et moi, c'est un film que je n'ai pas vu. C'est un film que je n'ai pas vu et que je n'ai pas voulu voir parce qu'en fait, il se trouve que moi, j'ai beaucoup de mal à dissocier fiction et réalité. Et moi, j'ai vu la bande-annonce. Moi ça me suffit. Je sais que je ne peux pas. Je vais faire des cauchemars pendant 6 mois. Je ne peux pas.
Blue Velvet est dur aussi.
Il est dur aussi, mais en même temps, il y a quelque chose de suffisamment onirique.
Oui, c'est vrai.
Pour qu'on puisse trouver un espace. Et contrairement à ce que, d'ailleurs, beaucoup me l'ont dit aussi, c'est vrai que... moi, il y a peut-être beaucoup de violence dedans, c'est dur, c'est ce qu'on veut, mais je crois que les personnages, y compris les méchants, entre guillemets, sont d'abord des humains.
Oui.
Et qu'ils ont leur zone de fragilité. Oui.
Alors justement, parce que en fait, vous allez au-delà des apparences, vous parlez des secrets, et en fait, on découvre les secrets de chacun. Et je me dis que dans le fond, il faudrait qu'on fasse ça avec tout notre entourage. Même les plus odieux, les plus pervers, quand on connaît leur histoire, il ne s'agit pas de pardonner, mais de comprendre.
Ouais.
Hein, de comprendre. Et effectivement, moi, j'ai un faible pour Beg.
Ah oui, ça, oui.
Celui-là, c'est un paumé, un rejeté, un moqué, un humilié. Et on se dit, oui, évidemment, la vie n'est pas facile. Enfin, là
non,
je...
C'est vrai, ouais. Oui. Non, mais c'est important pour moi, ça. C'est important parce que, j'ai envie de dire, moi, dans la question même de l'art du roman, c'est important. C'est-à-dire que je n'envisage pas un roman autrement que comme une sorte de traversée vers quelqu'un. C'est-à-dire qu'au départ, on a un personnage qu'on brosse comme ça en quelques traits, et puis pour moi, tout le livre, ça va être d'essayer d'aller trouver qui est cette personne derrière les apparences, derrière tout ce qu'on peut savoir. Vous savez, l'autre jour... j'entendais quelque chose qui m'a fasciné sur maintenant l'ex-président des USA, sur Donald Trump. Dieu sait que je n'ai pas de sympathie pour lui, mais quelqu'un racontait cette anecdote que son père, quand il était enfant, un jour lui avait retourné un plat de pâtes sur la tête. Et qu'il avait été humilié, qu'il revenait souvent sur ces. Il racontait apparemment, il raconte souvent cette histoire alors qu'il était gamin, quoi. Il raconte. Et c'est évident que c'est une clé, cette histoire.
C'est vrai.
Pour moi, ça, par exemple, si on met Donald Trump qui refuse de perdre une élection, qui va jouer au golf, et ce gamin qui se prend un plat de pâtes sur la tête, vous voyez, le trajet entre les deux, pour moi, c'est un roman.
Le roman, c'est ça. Oui, oui. Ce qui fonde une personnalité, évidemment. Oui, voilà. Alors, en fait, justement, vous nous faites partager chez ces personnages, les évocations du passé, les ruminations, les regrets, ils deviennent intimes. Et en définitive, nous entrons dans le scénario, je dirais. Décidément, je parle beaucoup de cinéma. Et c'est un fait que, parce que quelqu'un m'a dit oh, un livre de plus de 600 pages. Mais j'ai dit oui, mais finalement, on ne s'ennuie pas. Et je dis on accompagne, on fait partie, on est entré. Ces gens, on les connaît. Alors, évidemment, on peut parler quand même de quelques cas, de quelques personnages. Évidemment, il y a Christine. Et je trouve que les deux femmes ont un point commun, et Dieu sait qu'elles ne sont pas appelées à se comprendre, du moins à ce moment-là, parce qu'elles viennent d'horizons tellement différents, elles ont des vécus tellement différents. Mais elles ont une soif énorme d'indépendance. Il me semble.
Oui, c'est vrai. Oui. Leur point commun, ce serait...
Mais l'une y est arrivée et l'autre a du mal.
C'est plus compliqué. C'est parce que leurs parcours sont effectivement très, très différents aussi.
Ouais. Ben voilà. Alors, j'ai bien aimé... Tous les personnages sont intéressants. Christine, une artiste. Et je me suis dit, tiens, c'est... Parfois, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, mais est-ce que ce n'est pas également l'activité littéraire qui est décrite un petit peu à partir du moment où vous parlez du travail de Christine, la manière... Alors, si vous permettez, je vais retrouver mes sources quand elle parle. Vous permettez que je lise ? La table est trop grande, on n'a pas... Ainsi, elle passe son temps dans l'atelier et peut revenir dans l'entrée, dans la cuisine. Alors, est-ce que c'est ça ? Attendez, on ne sait pas. C'est peut-être pas ce passage-là que je vais lire autre chose. C'était... Christine s'est assise face à la toile qu'elle pensait avoir finie la veille et dans l'atelier, elle s'est retrouvée face à cette femme nue et rouge, trônant sur un fauteuil immense comme une reine un peu plus grande qu'une femme de taille réelle, qui attend on ne sait quoi, comme une géante vieillissante dont l'âge l'emmène du côté de la vieillesse, mais avec douceur, lenteur, l'accompagnant dans sa plénitude, sans la faire basculer encore dans la décrépitude. Un âge de nuance qui n'est plus celui de la splendeur ou du triomphe du corps, mais qui n'est pas encore celui de son effondrement. Un âge humain fait de glissements, d'époques se chevauchant, se contaminant, un peu comme les couches de peinture successives, laissant voir leur présence par glacis, comme si l'âge laissait apparaître plusieurs époques d'une seule vie dans une seule image. Toute la matinée, Christine a tenté de déchiffrer cette femme qui, en se demandant non pas pourquoi elle l'avait peinte, ni pourquoi ce corps avait été peint avec toutes ses nuances, ses variations de rouge, tout un nuancier qu'elle avait pris soin d'unifier en travaillant les superpositions, les ombres et les lumières, l'épaisseur ou la fluidité de la texture, comme si la peau était pure couleur et que la chair, comme dans les tableaux du Rubens, qu'il avait tant impressionné à Anvers quand elle était jeune, dont elle avait gardé un souvenir entre fascination et écœurement, comme devant un dessert trop crémeux, s'était faite elle-même peinture, mais en cherchant à s'assurer que l'assise de la femme était juste, crédible, non pas réaliste, mais dotée d'une densité réelle, etc., etc. Je pense qu'il y avait un autre passage qui était encore plus explicite. Et je me disais, oui, cette création-là, comment... Vous voyez comment...
Oui, c'est... Vous savez, moi, j'ai un passé d'étudiant aux Beaux-Arts et je suis un peintre. J'hésite entre raté ou frustré, je ne sais pas lequel des deux est le plus exact. Mais en tout cas, la peinture compte beaucoup pour moi. Ça compte beaucoup dans ma vie. Et c'est... Et il y a des choses que je trouve quand même proches de l'écriture... Dans la question de la reprise, du repentir, dans la façon dont il y a un travail du temps. Dans la peinture, on peut voir comment le temps existe, comment la superposition de couches, si l'une est devant l'autre. Vous voyez, il y a forcément un moment où une couche recouvre une autre. Et ben ça, c'est un petit peu... Pour moi, c'est assez proche du travail de l'écrivain.
Et puis, à un moment donné, vous dites... prenons conscience que ce qu'on a aimé, c'est le trajet et non l'arrivée.
Ben oui, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment ça. Quand j'arrive à la fin d'un livre, Je suis toujours content que ce soit terminé, hein. Parce que c'est fatigant, c'est épuisant. Mais ce que j'ai aimé, c'est le voyage que j'ai fait. Et parce que, aussi, ce voyage, il fait que quand vous arrivez à la fin de la dernière page, vous êtes dans une espèce de... C'est presque un moment, il y a un moment un peu d'épiphanie, presque. Ça, d'un moment où, quelque chose se transforme dans la matière que vous ne pouvez pas avoir avant, à aucun autre moment en écrivant. Il faut vraiment avoir traversé tout le livre pour d'un seul coup, et j'espère que c'est vrai aussi pour le lecteur.
C'est une délivrance.
C'est une délivrance, mais c'est une joie, en fait.
Quand je parle de délivrance, je pense à l'enfantement.
Oui, tout à fait, on peut dire ça, quelque chose. Après, c'est vrai que je vous avoue que je ne suis pas très fan, moi, de la comparaison avec l'enfant, parce que... il m'est arrivé plusieurs fois, notamment pour des questions d'adaptation, quand je refusais des adaptations, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, on dit oui, je comprends, vous refusez parce que c'est vos enfants, vous refusez, etc. Alors pour moi, pas du tout. Franchement, pas du tout. Parce qu'un enfant, pour moi, c'est tellement plus précieux qu'un livre, de toute façon. Je veux dire, franchement, c'est en ça que la comparaison, mais pour moi, franchement, vous savez, c'est toujours l'histoire entre le Rembrandt et le chat, la maison. Qu'est-ce qu'on
vous
sauve ?
Vous préservez le chat ?
Ah bah bien sûr, je me pose même pas la question. Oui. Je ne me pose pas la question.
Mon chat est par là, donc.
Non mais c'est vrai. Pour moi, c'est
la vie.
La vie, bien sûr. La vie. Vous savez, ça me rappelle cette histoire. On parlait de cinéma, ça me rappelle une histoire de Bergman qui voulait proposer un rôle à je sais plus quelle actrice, et puis elle lui dit oui, et puis 15 jours après, elle lui dit bah, en fait non, je pourrais pas le faire, je suis enceinte. Il l'engueule, il lui parle pas pendant un mois, et puis il revient. Auprès d'elle en s'excusant et en disant qu'évidemment elle a raison, que la vie est bien plus importante qu'un film. C'est pour ça que je précise ça parce que c'est important.
Nous faisons une pause musicale et on va écouter, puisqu'on a parlé de Christine, on va écouter ce qu'elle écoute dans ce livre en tout cas. Il s'agit de Verdi, et puis ça, je crois que Christophe, notre technicien préféré, s'en chargera.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, je suis en compagnie de Laurent Mauvignier qui vient d'écrire. Enfin, non, c'est pas tout à fait récent maintenant.
Non, j'ai fini les corrections en mars.
Voilà, Histoire de la nuit, histoire au pluriel, paru aux éditions de Minuit. Oui, alors nous parlions des personnages principaux, en tout cas de la première, je dirais, première partie des personnages très denses. Évidemment, il y a Patrice Bercogne qui est sympathique, un éleveur qui est rude physiquement, massif, et en même temps, on sent une sensibilité réelle, une frustration. Il est, comme beaucoup de paysans, bon, dans les Pyrénées en particulier, on en a connu, les filles partant toutes à la ville et se retrouvant seules. Donc lui, il a réussi merci Internet, à rencontrer une très jeune femme, une très jolie femme, d'après ce que on comprend, on devine. Mais évidemment, hein, ce n'est pas le couple idéal. Il y a, du moins pour l'instant, parce que là aussi, il y a une évolution qui est très très chouette, vraiment. À la fin, il y a dans la partie la plus ultime qui est dure, qui est tragique même, mais il se passe quelque chose dans le couple. Il y a un couple qui se forme. C'est comme ça que je l'ai compris.
Oui, oui, oui. Alors, c'est étonnant parce qu'il y a des gens qui ont une lecture assez différente de ça, qui pensent que c'est plutôt faux, qu'elle est un peu... Alors que moi, je crois effectivement que c'est plutôt... je pense que c'est une sorte de révélation pour elle.
Oui, oui.
C'est un peu dit, d'ailleurs, je crois, dans le livre. C'est-à-dire que ce qu'elle... Elle, pendant tout le début du livre et pendant toute une...
Elle paraît indifférente, elle hostile paraît, même, presque.
Presque hostile. Et en fait, à un moment, je crois que simplement, elle comprend que... elle pense, en fait... Le problème qu'elle a, c'est qu'elle pense que cet homme, s'il l'aime vraiment, ça prouve que lui n'est pas digne d'être aimé. Parce qu'en fait, c'est elle qu'elle n'aime pas.
Oui, c'est ça.
Et donc, pour moi, la façon dont... quand elle accepte son amour à lui, oui, elle accepte, elle, de s'aimer aussi, elle. Elle accepte de se recevoir elle-même.
Oui.
Oui. Donc, cette évolution, elle est très importante dans le livre.
Alors, moi, je vois aussi autre chose, l'idée du pardon. Parce qu'à un moment donné, tout est étalé.
Ah oui.
Et il découvre des choses. Et cet amour qu'il a pour cette femme fait que, bon, il comprend... Pardonner, c'est, il comprend et il accepte comme ça. Et je crois que tout d'un coup, elle découvre ça.
Oui.
Hein, parce qu'elle est toujours dans la culpabilité aussi.
Oui, et puis Marion, c'est quelqu'un qui... Alors, il y a tout un portrait sur sa mère, par exemple. Il y a tout, on voit qu'elle vient d'un milieu extrêmement dur, où en fait, c'est une femme qui n'a jamais connu d'amour, en fait. Et donc, elle est démunie en face de ce gros balourd de Bergogne comme ça, qui avance, qui dit à sa fille qu'il est un ours, qui a un côté comme ça qui peut paraître effectivement un peu rusto, quoi. Et puis en fait, ben il l'aime vraiment. Et ça, elle ne sait pas comment déchiffrer ça. Ça lui fait sans doute même peur. Elle ne sait pas comment faire avec ça.
Oui.
Et
elle ne sait pas, voilà, exactement. Voilà.
Et là, elle est d'un seul coup dans l'acceptation, d'un seul coup de cette évidence,
oui,
en fait.
Oui, oui. Là, moi, je suis même étonnée que vous me disiez qu'il y a d'autres interprétations, parce que pour moi, ça me paraît évident.
Oui, pour moi, ça l'est aussi. Oui.
Ah, bon, alors ça va, c'est vous l'auteur.
Pour moi, ça l'est aussi. Oui, mais en même temps, ça l'est aussi, mais vous savez, moi, je me dis toujours qu'un livre, il appartient à ceux qui le lisent, oui, et qu'après tout, les interprétations, elles peuvent se discuter. Parfois, les auteurs ne sont pas toujours les meilleurs juges.
Voilà, alors bon, on a parlé aussi de ce couple. Donc, il y a Ida. Alors, quel rôle faites-vous jouer à Ida, cette petite fille qui est futée, qui est... le regard est affûté, elle est inquiète. Elle devient inquiète, et pour cause, parce qu'au départ, c'est une petite fille tout à fait, j'ai l'impression, tout à fait tranquille. On voit petit à petit les interrogations, ce monde qu'elle a autour d'elle, qui est douillet, qui se fissure. Hein, c'est ça, ouais. C'est un regard out, un peu.
Elle est un peu à l'écart, ouais, un peu. J'allais presque dire, c'est si quelqu'un devait être l'écrivain, l'auteur dans le livre, ce serait peut-être elle, parce qu'elle a ce regard un peu
distancié,
un peu à distance, ouais. Et de moins en moins dans le livre, et elle a ce regard un peu à distance, et puis elle a cette curiosité aussi, c'est-à-dire qu'elle observe tout.
Oui, parce qu'elle veut savoir, elle se rend compte qu'on lui cache des choses.
Elle comprend que des choses se jouent entre les mots, et elle se dit, tiens, là on est en train de dire ça, mais il se passe autre chose. Mais elle ne sait pas quoi. Alors elle regarde, elle a besoin de comprendre. Elle essaie avec son intelligence de petite fille, qui, même si elle est très intelligente, elle n'en reste pas moins une petite fille. Donc elle a aussi ces zones où elle sent bien qui se passent des choses qui lui ouais. sont.
Mais dans le fond, Laurent, dans le fond, le lecteur est un peu comme elle au départ. Il sent qu'il oui. dit, ah, d'une manière diffuse qu'il y a un malaise.
Mmh. Ouais, ouais. Oui, mais c'est pour ça, pour moi, c'est vrai que c'est par ce personnage-là qu'on peut entrer dans le récit. Et d'une certaine manière, si on regarde d'ailleurs, dans la façon dont ça circule, notamment au début, elle est à peu près le seul personnage qui va aller dans tous les endroits.
C'est vrai,
c'est
oui.
la seule qui circule.
Y compris dans la grange.
Y compris dans la grange, ouais. exactement. Ouais. C'est la seule qui va partout.
Alors, il y a une fête qui se prépare, c'est l'anniversaire de Marion, et tout le monde s'emploie à la préparer, avec plus ou moins de bonheur, parce que Christine, cette femme peintre, qui est d'un milieu tellement différent, tout est différent par rapport à Marion, elle n'a pas de sympathie pour Marion, elle a deviné bien des choses, mais elle ne comprend pas tout aussi. Mmh. Mais elle prépare quand même pour faire plaisir à Bergogne. Là aussi, il y a un lien quasi filial, hein, je dirais, ouais, entre, ouais, eux, ouais. entre eux. Bon, et puis arrivent trois hommes, trois frères. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à Il était une fois dans l'Ouest, vous savez, où on voit trois personnes.
Oui, oui, mais...
Vous voyez, j'ai des flashs comme
ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose... Pourtant, moi, je ne suis pas très fan forcément des western spaghetti que je trouve toujours un peu...
Moi, peu j'adore.
Moi, je les aime beaucoup, mais comme des objets, oui. ça me... Parce qu'il m'amuse aussi,
oui, voilà.
plus
oui.
que, pour le coup, c'est pas du Bergman ou de Antonioni, ou c'est pas du Ford, si on veut comparer oui, à un western, mais ça ne me touche pas de la même manière. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport à la lenteur. C'est des films où c'est un livre qui ont un rapport très ambivalent à la lenteur, au suspense et à la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse, ça peut fuser très très vite, alors que le temps va s'étendre,
oui.
va s'étendre.
Oui, oui.
Donc
oui,
c'est
oui.
vrai qu'on est obligé d'y penser avec les trois frères, parce que la façon dont ils évoluent, dont ils arrivent, notamment Christophe, par exemple, il prend beaucoup de temps pour des choses comme ça. On a l'impression que comme ça se joue beaucoup sur les regards, et ça, c'est vrai que ça fait très western spaghetti.
Tout
on a l'impression
fait.
Que les regards comme ça sont très...
Et alors, il y a un extrait, là, l'homme n'est pas grand. Il s'agit de Christophe, hein, je pense. Ou de Denis, mais je pense que c'est Christophe. Il est mince, concentré sur lui-même, sec, musclé et maigre, ou plutôt asséché, comme s'il s'était épuisé à faire de la musculation et à surveiller sa nourriture, en s'interdisant toute forme de graisse ou de sucre. On peut voir ses muscles saillants dans le cou, que le corps est vigoureux, mais Bergogne ne s'y attarde pas. Ce qui le frappe maintenant, c'est sa voix. Cette voix qui le trouble parce qu'elle tremble d'une douceur qui s'éparpille dans l'espace comme une sorte de parfum volatile et fragile, la voix de quelqu'un dont la jeunesse aurait pris de plein fouet les traits marqués du visage, la réalité brutale du passage du temps. Et ce qui met très très mal à l'aise dès le départ, quand ces hommes sont là, c'est leur douceur, leur politesse.
Ouais, ouais.
C'est inquiétant, ça.
Ah bah oui, oui, il faut se méfier des gens trop polis.
Pour être honnête.
Oui, exactement.
Ils paraissent gentils, ils paraissent amicaux, faussement calmes, mais il y a une tension. Vraiment, vous la faites sentir, cette tension.
Mais parce qu'en fait, ils sont un peu comme moi. Quand je commence à écrire mon livre, je me dis « je ne vais jamais réussir à faire un truc pareil ». Donc, je vois quand Christophe arrive, qui est le premier, en fait, qu'on voit des frères, il arrive, la voiture se gare, etc. Il parle avec Christine. Et il est à la fois souriant et calme, mais en même temps, ses mains le dénoncent.
Et son regard.
Et son regard, parce qu'il regarde partout. Oui. Et puis, en même temps, il a les mains
très
agitées.
En même temps, il ne la perd pas de vue non plus.
Voilà.
Oui.
Et puis, il est quand même trahi.
Oui,
quand même
et puis vraiment, fidélité. Et vous arrivez à nous faire visualiser ça parfaitement. Et donc, on l'a en face. Et en fait, même chez eux, leur histoire, on voit un passé de dérive, de violence. Alors là, ce n'est pas un père violent comme chez Bergogne, mais ce sont des parents apparemment indifférents, il me semble plus. Incapable, dépassé.
Dépassé, oui,
ouais.
Je dirais ça. Ouais.
Ouais.
Dépassé.
Bon, et en même temps, il y a des sentiments amoureux chez l'aîné, fraternels chez Denis, le second, Et quant à Bègue, à un moment donné, on se dit, mais il va se passer quelque chose avec Christine qui lui parle, qui lui explique. Et il est touché. Ce personnage, moi, je le trouve très intéressant. Il suffirait d'un peu.
Ben oui, il suffirait de peu. Et moi, c'était ça que je voulais travailler avec lui. C'était vraiment...
Ouais.
C'est un personnage qui est sur la... Il est sur le bord de plein de choses.
Ouais,
il est sur le bord d'une absolue sagesse, mais aussi d'une absolue folie.
Ouais.
Il est sur le bord de l'hyperviolence. Il est sur le bord, au contraire, d'une infinie douceur. Il est sur le bord... Il est sur le bord, surtout, parce qu'on le met de côté.
Oui,
il est sur le bord parce qu'il est vraiment, on peut dire, borderline.
Oui,
vraiment.
Et
Christine, elle le sent, elle pressent.
Et en même temps, à un moment donné... Elle va être maladroite quand même.
Oui, mais alors peut-être que là, elle est ambiguë sur ce qu'elle fait. Parce que d'une certaine manière, elle le provoque.
Oui, exactement.
C'est
peut-être provoqué par la peur.
Oui, après, ça m'a beaucoup interrogé parce que j'avais, là, pour le coup, d'un point de vue scénaristique, j'avais besoin que quelque chose évolue sur ça. Mais c'était très compliqué à faire parce que je me disais, mais. Elle essaie de se le concilier, et puis à un moment, elle voit qu'elle ne va pas réussir complètement.
Oui.
Et puis, il y a quelque chose qui se joue entre eux, d'un jeu érotique, d'un jeu quand même un peu étrange. Mmh. Elle n'est pas complètement claire là-dessus, elle non plus. Ou alors, elle ne s'en rend pas compte.
Oui, oui.
On voit qu'il y a des endroits...
Peut-être qu'elle essaie beaucoup de subterfuges aussi pour échapper à cette emprise. En fait, dans votre roman, moi, je vois beaucoup, beaucoup de thèmes qui, en ce moment, ont une importance réelle. Mais peut-être qu'avant d'en parler, on va faire une autre pause musicale, si vous êtes d'accord. Alors, on va dire Maudit Blues ou Léo Ferré ?
Allez, Léo Ferré.
Allez, d'accord.
Une robe de cuir comme un fuseau aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, les body blues qui chantent la nuit dans un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jase dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui court ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra.
Paroles d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec Laurent Mauvignier pour Histoire de la nuit, un roman paru aux éditions de Minuit. Nous parlons donc, il s'agit d'une sorte de prise d'otage. On ne va pas raconter évidemment la partie, parce qu'après ça va crescendo, hein, votre roman. Au départ, ça s'étire. On pourrait parler du style, mais on en a déjà parlé. On a lu des extraits du style avec des phrases qui sont longues. Avec beaucoup de détails aussi. Par exemple, des détails, le contenu du sac de Marion. Je dis, on le voit, on y est finalement. On se dit, mais pourquoi il nous donne ces détails? Mais on comprend, c'est que ça fait partie de notre univers à un moment donné.
Ah bah oui, oui. Pour moi, la question, c'est de réussir à mettre le lecteur dans une sorte d'immersion, mais qui est aussi l'immersion de ce que vit le personnage. Mmh, donc,
c'est ça, ouais.
Sinon, on est un peu à côté.
Oui, oui. Et puis alors, l'immersion, c'est également de voir le fonctionnement d'une pensée avec toutes ses fluctuations, les réminiscences, les regrets, les répétitions, le ressassement, comme on dit chez Duras. Mmh. Hein, voilà. Alors oui, les thèmes, moi j'en ai vu beaucoup, vous allez me dire, la violence, bien sûr, hein. C'est la réponse à toutes les frustrations, les humiliations. On peut en parler de ça actuellement peut-être, hein. Ça fait partie des sujets. Des phrases, je vous cite, les phrases blessantes sont celles dont on ne guérit pas qu'un rien ravive.
Bah oui, moi ça fait partie des choses qui me motive dans l'écriture depuis, je pense, depuis le premier livre. Là, ça prend une forme un petit peu particulière parce que ça s'associe effectivement à la violence d'un genre. Bon. Mais je pense que c'est un moteur très profond dans l'art, mais aussi dans la vie. Et je trouve que dans la société comme elle l'est aujourd'hui, comme elle ne tourne pas très rond, les rapports de frustration et de domination sont d'une violence inouïe. Au moins, on est dans une époque qui me fait beaucoup penser à Dostoïevski. Il y a plein de livres, je pense au Double par exemple, chez lui, il y a beaucoup de livres où on voit des petits chefs humiliant, ou des employés s'humiliant eux-mêmes parce qu'ils veulent bien faire, parce qu'ils ont peur. Et on est dans une société qui fonctionne exactement comme ça aujourd'hui.
Mais est-ce que c'est pas une faillite des parents, de la famille, globalement, hein?
Ben, je crois que c'est un ensemble. Si vous voulez, pour que les parents donnent confiance à leurs enfants, il faudrait qu'eux-mêmes
oui.
aient eu confiance ou aient confiance dans leur vie.
Donc c'est un cercle vicieux.
Ah ben, c'est un cercle vicieux, évidemment.
Alors, je pense aussi à l'art, alors on en a parlé, de tout ce que ça peut apporter, de son exigence. Et c'est vrai que le fait de pouvoir se réaliser personnellement à travers l'art, quel qu'il soit, ça, vous en parlez. Enfin, c'est ce que moi, j'ai lu là-dedans. La place des femmes, évidemment, évidemment. Et vous parlez à un moment donné, Marion est confrontée à une forme de harcèlement. Mais... tout n'est pas non plus... elle va se trouver, comment dirais-je, soutenu par le directeur, hein, je crois. Donc là aussi, il ne faut pas non plus... tous les hommes ne sont pas des harceleurs.
Disons que moi, ce que j'essaie dans un livre, c'est d'être quand même pas trop manichéen, quand même. Quoi, de dire que parce que la vie... Moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est d'essayer de trouver... à travers de la nuance, c'est d'essayer de d'écrire un objet qui ait suffisamment de facettes pour que le lecteur y trouve d'abord l'envie de continuer à le lire et puis une densité qu'il ne trouverait pas si je réduisais ça. Effectivement, dans son entreprise, une imprimerie, tous les hommes sont des affreux et puis toutes les femmes sont... C'est pas comme ça et ça marche pas comme ça dans la vie.
Alors évidemment, il y a tous les non-dits et ça aussi, on le dit beaucoup maintenant aux parents expliqués ou aux personnes qui ont subi des violences ou des attentats, par exemple. Il faut parler, on les fait parler, on dit il faut se parler dans les couples, dans les familles. Et ça, on le voit même particulièrement à travers votre livre. La peur, évidemment, la peur, la montée de la peur, et là, c'est peut-être un peu ce qu'on a avec le terrorisme actuellement et l'épidémie de coronavirus. C'est ce qui peut entraîner des réactions inappropriées. Et puis moi, je vois autre chose. Je vois une forme de résilience aussi.
Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une forme de résilience?
Une forme de rédemption, même, j'oserais vous dire.
Oui, carrément.
Carrément. Ah, ben vous êtes sur Radio Présence.
Non, mais
parce alors... que pour moi, il y a quand même ça.
Alors, rédemption, je ne sais pas. Je sais, par exemple, qu'il y a une... si on veut parler en ces termes-là, je sais, par exemple, qu'il y a une scène qui est très importante dans le livre. Alors, bon... Tant pis, je vais dévoiler un peu des choses, mais c'est pas grave. Il y a un personnage à un moment qui vraiment se fait, on peut dire, vraiment casser la tête de manière très très violente. Et puis elle revient à la vie. Et pour moi, je l'ai, mais pas en l'écrivant, c'est après. Parce qu'on m'a fait remarquer quand même que...
C'est une résurrection.
Mais, et alors, on est sans doute assez proche de Lazare ou de quelque chose comme ça. Et je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Et, alors que c'est extrêmement important. Et c'est un des seuls moments dans le livre où les phrases sont très courtes.
Ouais.
Et où on revient comme ça à la vie. Et je pense que le livre, globalement, fonctionne assez de cette manière-là. Donc, on d'une certaine manière, oui, il y a une forme de résilience dans le sens où il y a une forme d'un besoin de vie après une certaine acceptation de la mort, en fait.
Oui. Alors là, et également chez Marion.
Oui.
Chez Marion, on le sent très fortement, je trouve. Elle a réussi en partie, mais pas vraiment, puisqu'elle tait tout ce qui fait son drame. Mais elle va y arriver. On se dit, elle va y arriver.
Oui, ça, c'est vrai que c'est important pour moi parce que le livre, il est construit, il y a le rapport au passé, mais il y a le rapport à la vie, à un combat pour la vie. Et il n'y a jamais de résignation.
Absolument. Laurent Mauvignier, je crois qu'on aurait encore plein de choses à dire, à discuter, mais voilà, le temps imparti est écoulé. Un grand, grand merci.
Merci à vous.
Je répète à nos auditeurs qu'il s'agit de Histoire de la nuit, écrit donc par Laurent Mauvignier, édité aux éditions de Minuit. Une belle édition.
Ouais, merci.
Au revoir.